Alors Olivier, vous nous parlez aujourd'hui de freins et moteurs psychologiques et sociologiques à la conversion vers l'écologie intégrale. Pourquoi cet apport?
Alors, tout simplement parce que de discussion en discussion, on se rend compte que chez beaucoup de personnes, on perçoit deux sentiments très forts qui existent. D'abord, une insatisfaction, voire même un dégoût à participer à la marche actuelle du monde. C'est quelque chose qu'on ressent. Et puis, face à ça, avec la même intensité, un sentiment d'impuissance. Alors finalement, le problème, c'est moins au niveau des convictions que du passage à l'acte. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine. Donc on va faire un petit tour d'horizon d'abord des freins au passage à l'acte, et puis on va partir aussi du côté des moteurs. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de lever des freins, on peut aussi prendre conscience que l'écologie intégrale, c'est profondément désirable.
Alors Olivier, vous nous parlez de conversion à l'écologie intégrale, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Ben pour être honnête, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. J'en ai une vague idée, mais si je le savais a priori, ça ne serait pas une conversion. Puisque dans la conversion, il y a l'idée de se laisser surprendre, d'aller vers ce qui nous est inconnu. Une conversion ne peut pas être planifiée, puisqu'elle vient chambouler, y compris la structure de pensée qui nous permettrait d'en planifier la progression. Voilà, et au passage, on parle ici de quelque chose de bien plus profond que les invitations au changement très technique dont on nous parle souvent à la télé, trier ses déchets, fermer le robinet quand on se brosse les dents, etc. Là, on est vraiment sur les structures profondes de la conversion.
Bon, j'y vois finalement pas beaucoup plus clair, mais si je comprends bien, c'est normal.
C'est tout à fait normal.
Alors, sur quoi elle s'applique cette conversion au final?
Ben, on peut considérer qu'on est dans la même situation que nos aïeux, qui voyait l'esclavage comme quelque chose de naturel et de vertueux, simplement parce que c'était la norme. Idriss Aberkane nous rappelle que dans tout grand changement de civilisation, d'abord, il y a l'idée de ridicule, l'idée de l'abolition de l'esclavage. D'abord, ça a été raillé, on tournait ça au ridicule. Et puis, peu à peu, ça devient dangereux. Les gens se sont dit, mais comment on pourrait faire sans esclaves? L'économie va être bouleversée. Et enfin, une fois que le changement, le bouleversement est passé, l'idée semble évidente. Aujourd'hui, pour tout le monde, l'esclavage est une mauvaise chose. Et donc l'idée de la conversion, ce serait de reconsidérer ce qui nous semble ridicule et ou dangereux, parce que peut-être que derrière ce sentiment, il y a un mode de pensée archaïque qu'il va nous falloir dépasser.
Tout à fait. Alors d'accord pour l'idée de conversion, mais quel est aujourd'hui finalement l'équivalent de l'exemple de l'esclavage que vous avez pris, que nous ne savons pas voir? Dans quel domaine s'applique cette remise en cause?
Alors pour répondre à cette question, on peut s'appuyer sur des passages de Laudato Si, par exemple en Laudato Si 111, un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité. Voilà, ça dresse déjà beaucoup de choses. En 215, le pape nous parle aussi d'un nouveau paradigme concernant l'être humain, la vie, la société, la relation avec la nature. Et puis pourquoi pas Laudato Si 10, la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure. Voilà quelques pistes. Et puis on peut aussi par exemple s'appuyer sur les thèmes du reportage du documentaire Demain, qui fait un grand tour des solutions concrètes. Ils y abordent cinq thématiques, agriculture, énergie, économie, démocratie et éducation. Et on pourra en rajouter d'autres, santé, vie spirituelle, consommation, relations aux autres. Bref, les trois mots du pape qui nous dit tout est lié. Résume bien tout ça. On peut aller dans tous les domaines, on trouvera des choses. Alors tout ça c'est passionnant, mais c'est aussi un peu effrayant.
Ouais, c'est sûr que ça peut être effrayant. Justement, entrons vraiment dans le vif du sujet. Quelles sont les peurs, quels sont les freins?
Alors, pour organiser un peu les choses, on va couper les freins en deux. Il y aura des freins conscients, dont on va parler un peu plus tard, et puis des freins inconscients. Alors, les freins inconscients, en fait, on pourrait dire, si on est dans l'idée d'une voiture, il y a les freins, les moteurs, et puis les freins inconscients, ce serait de la buée qui nous empêche de voir. C'est les mécanismes qui nous privent de la conscience même de l'existence d'un profond problème de civilisation. Alors c'est intéressant de connaître ces mécanismes parce que ça nous permet de les contourner. Et si par exemple on a un proche qui nous agace un petit peu parce qu'on dirait qu'il ne voit pas qu'il y a un problème, eh ben on peut se dire mais qu'est-ce qui l'empêche de voilà, quelle est sa buée à lui?
Alors finalement, ces freins inconscients, à quoi ressemblent-ils?
Alors on ne peut pas les citer tous loin de là, juste quelques-uns, la vision fragmentée. Parce qu'on est dans une société, en fait, qui, pour être performante, chaque individu est ultra spécialisé dans son domaine, on travaille, on est très compétent, et par contre, ça nous prive d'une vision d'ensemble. On est chacun spécialisé dans une petite boîte. Et donc, pour avoir une vue globale qui nous permettrait de prendre conscience, justement, ben, c'est plus difficile. On peut parler de Edgar Morin, qui a travaillé sur ce sujet. Et puis un deuxième frein, alors je citerai le Christ en haut de sa croix qui disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voilà, l'humanité ne sait pas ce qu'elle fait. Alors ça a été au point de tuer son Dieu il y a à peu près 2000 ans, et aujourd'hui de tuer la création de Dieu, sans avoir conscience de sa folie. Parce qu'un homme qui grandit dans une société dans laquelle le mal fait partie du décor, de manière banale, courante, mais il ne saura pas voir ce mal. Et là, on peut renvoyer aux travaux de Hannah Arendt sur ce sujet. Et puis un troisième frein, là c'est Jean-Pierre Dupuis qui nous éclaire avec une phrase, il dit « On ne croit pas ce que l'on sait ». Alors, l'effondrement de notre humanité, en fait, elle ne fait pas partie, on pourrait dire, de notre logiciel. C'est pas inscrit comme un événement possible dans notre imaginaire. Et donc, notre regard, il va filtrer cette information. On l'entend, on le sait, mais on n'y croit pas.
Alors Olivier, tous ces freins là dont vous nous avez parlé, comment on peut les lever ?
Eh bien, pratiquement, on peut dire que dans chaque frein, il y a en creux sa résolution. C'est-à-dire que, en gros, globalement, pour ces freins, on n'a pas le temps d'aller plus en détail, mais principalement, c'est un travail de conscience et de prise de recul, de reconsidérer l'existant qui nous semble normal et d'essayer de voir s'il n'y a pas des choses un peu qui seraient le signe de notre folie là-dedans.
Alors maintenant, on va marquer une courte pause avec Abd al-Malik et sa chanson « Noce à Grenelle ». L'occasion d'essayer d'avoir une autre lecture. La lecture évidente semble parler d'une histoire d'amour entre deux personnes. Et pourtant, à vous de voir, bonne écoute.
Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu ? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On a rompu sans savoir pourquoi, sans savoir pour moi, je ne sais toujours pas pour toi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend quand c'est fini. N'est-ce pas ici pourtant qu'avait élu domicile la vie ? N'étions-nous pas, j'étais supposé, censé prendre soin de toi, du toi que tu as été dans cette vie où je n'ai vu que moi ? Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu ? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On a tenu aussi longtemps qu'on a pu, toi et moi, sans savoir pourquoi. Je parle pour moi, tu as toujours su pour toi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours quand c'est fini. N'étions-nous pas pourtant faits l'un pour l'autre ? Nous étions supposés être faits l'un par l'autre. Du nous sommes, par égoïsme, j'ai dit je suis. Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu ? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être. Pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On s'est battu pour je ne sais quoi sans voir qu'au fond je n'étais victime que de moi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours quand c'est fini. N'était-ce pas ici qu'avaient fleuri ces cœurs ? N'est-ce pas ici que nos âmes devinrent sœurs ? Pourquoi ai-je lâché ta main et pris celle de la folie ? Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu ? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. Planète Terre.
Voilà, en fait, il s'agissait de la relation entre l'humanité et la Terre. Olivier, vous parliez également de freins conscients ?
Oui, absolument. Ces freins inconscients, ce sont ceux qui sont les plus souvent abordés dans les conversations. Là encore, on ne va pas parler de tous, mais chacun pourra, dans une attitude volontaire, détecter ses propres freins et trouver les moyens de les lever. Alors, je vous donne du travail quoi, à la maison. Alors, on peut commencer par un frein qu'on peut appeler « apparente inutilité ». simplement la Chine pollue, la Chine pour parler d'elle, mais énormément de pays polluent à plein régime, à quoi ça sert que moi, je trie mes déchets? Alors on peut commencer par l'histoire du colibri, que beaucoup connaissent désormais, qui consiste à dire « je fais ma part ». L'idée est belle, très pure, mais je sais que ça ne suffit pas à tout le monde, alors je vais vous proposer de prolonger un petit peu ce thème, parce que dans la réalité, les choses se passent autrement. Dans la réalité, le colibri ne reste pas un colibri, et notre capacité à agir, elle n'est pas figée, elle va en grandissant.
Alors je comprends pas très bien en fait, qu'est-ce que vous voulez dire Olivier exactement?
Ben concrètement, on commence par trier ses déchets, et puis ça nous donne envie de plus. Et puis on voit les initiatives qui démarrent autour de nous, chez les amis, dans le quartier. Et puis on simplifie sa vie, on va vers plus de sobriété, de mutualisation. Et puis, derrière, on va peut-être demander à son patron à travailler un petit peu moins. Et puis on va pouvoir réinjecter plus d'énergie dans cette conversion. Et c'est parti! Le meilleur exemple de cela, c'est Pierre Rabhi. Il est parti de rien, petit ouvrier dans l'automobile. Il avait seulement une intuition au départ. Et aujourd'hui, il est dans un collectif qui joue un vrai rôle. Il a développé une capacité d'action. Et pour faire être un peu idéaliste, pour moi, on est en France 60 millions de Pierre Rabhi en devenir. Donc vraiment, le processus de conversion, c'est une suite de pas, mais qui ne sont pas de la même taille tous. Ils sont de plus en plus grands, ces pas. Donc on peut y aller plein d'espérance. C'est pas au moi de maintenant, avec ma capacité d'action si limitée, de changer le monde. Donc c'est pas au moi de maintenant, mais c'est au nous de plus tard.
Donc c'est vraiment la marche en fait, telle que vous l'avez annoncée dans votre méditation
oui,
en fait.
Pourquoi pas, on peut trouver des liens, oui absolument.
Alors je pense aussi à un autre frein, l'impression que rien ne bouge, que tout est figé.
Oui, alors là encore il y aurait beaucoup à dire, mais on peut commencer par une image. Je sais pas si vous voyez les balançoires à bascule qu'on trouve dans les parcs. Si vous montez sur la barre là, qui va d'une balançoire à l'autre, si vous partez à partir de l'extrémité qui est basse, eh bien, alors il faut être prudent, hein, faut pas tomber, mais tant qu'on n'a pas atteint le milieu, rien ne bouge. Et puis à un moment donné, point de bascule, un tout petit pas supplémentaire, et on passe le milieu et ça bascule. Tout ça pour dire, c'est pas parce qu'en apparence, rien ne bouge, que les changements n'ont pas commencé déjà, on a commencé déjà collectivement et individuellement à marcher sur cette barre. Donc les cœurs commencent à changer, et à petite échelle, les choses commencent à changer. Donc rien ne bouge, c'est une impression. Et puis, on peut parler aussi de Yves Cochet, qui est un ancien ministre, qui a apporté une contribution importante sur ce point, avec le concept d'interaction spéculaire. Alors, c'est des mots compliqués, mais en gros, ça signifie que puisque nous sommes des êtres sociaux, l'intuition de la nécessité d'un changement ne va pas suffire pour nous mettre en mouvement, parce qu'on va se baser sur ce que nous pensons que les autres vont faire. En gros, on s'attend. Mais si un mouvement naît, l'évolution va être exponentielle. Si on avait eu le temps, j'aurais pu raconter le conte Les habits neufs de l'empereur, qui se base exactement sur ce phénomène. Et puis, troisièmement, l'impression que rien ne change, y a énormément de capteurs aujourd'hui qui nous disent que nous sommes justement dans un temps de grands changements potentiels. On peut penser à des études de scientifiques, il y a eu un appel il n'y a pas très longtemps, 15 000 scientifiques qui lancent un cri d'alarme, 80% des insectes volants qui ont été supprimés, c'est une autre étude récente, 30% des oiseaux, les études s'accumulent, et on peut penser aussi à tous les travaux de Jared Diamond sur ce sujet. On est dans une situation où, d'ailleurs, on peut aussi repenser, réécouter à ce sujet l'émission sur l'effondrement du 15 janvier 2018 sur Fleur de Sel. Tout ça nous montre que l'idée que rien ne bouge, elle est à revoir.
Alors justement, on entend aussi dire que les gens ne bougeront pas avant que tout s'effondre.
Oui, ça dépend de ce qu'on appelle les gens. C'est vrai que c'est une tendance de l'homme à plutôt rester là où il connaît que de bouger et d'attendre d'être forcé à bouger pour le faire. Mais il y a énormément de mouvements d'enthousiasme qui sont en train de naître sans attendre que tout s'effondre. Et puis, du coup, en parlant d'enthousiasme, si vous me demandiez, Isor, quels sont justement les moteurs?
Alors Olivier, justement, quels sont les moteurs?
Très bonne question, Isor. Merci de l'avoir posée. Donc on a déjà abordé quelques éléments stimulants comme moyen de lever les freins, mais ça vaut effectivement le coup de nommer quelques moteurs supplémentaires. Qu'est-ce qui est désirable? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est désirable dans cette conversion? Alors pour ça, j'ai un petit trousseau de clés, et je vous présente juste quelques clés de ce trousseau. Alors il y a la clé de l'enthousiasme, parce que, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est enthousiasmant, poser un regard neuf sur les choses, goûter à de nouveaux modes de pensée, redonner peu à peu du sens à ses activités, se sentir davantage en phase avec la création dans son ensemble et avec ses aspirations profondes, tout ça c'est enthousiasmant. Alors on peut parler de la clé du collectif également. Il y a dans cette démarche de conversion l'idée de faire ensemble. D'ailleurs, à son retour en Europe, après avoir vécu chez les chiffonniers du Caire, Sœur Emmanuelle donnait une interview dans laquelle elle... on peut entendre, je vous propose d'écouter un petit extrait de ce qu'elle disait.
Pourquoi avaient-ils cette exultation, ces enfants? Pas de jouets, bien sûr, ça n'existait pas. Je crois que c'est ça. Il y avait une sorte de convivialité dans le bidonville. Tous les enfants jouaient ensemble avec un bout de ficelle, un bout de bois, couraient à travers les ruelles en chantant. Tout le monde applaudissait. Il y avait donc dans la communication quelque chose de tellement simple, mais fort, mais quotidien, mais pour dire à chaque instant, qui faisait que ça donnait à la vie, à travers ces difficultés, je ne sais pas, on montait en cordée. C'est quelque chose de vivre en cordée, avec des centaines et des milliers. Tout le monde se connaît, se sourit, s'interpelle.
Voilà ce que nous disait Sœur Emmanuelle. Et on peut se poser la question, où en est-on, nous, de notre collectif, de notre vivre ensemble en Europe, en France? Et je dirais que c'est ça qui est merveilleux dans cette démarche de conversion, c'est qu'elle nous fait retrouver des choses que nous avions délaissées et qui nous sont pourtant vitales, sans qu'on se rende réellement compte. Et puis, une troisième clé, pourquoi pas, la clé de la sobriété. Parce que la surconsommation, on le sait maintenant, ça abîme notre époque, ça abîme nos êtres. Et donc ça fait un bien fou d'opter pour la sobriété en achat, en activité, en pensée également. Voilà pour les moteurs, et il y en aurait plein d'autres.
Merci pour ces mots d'espérance et ce bel extrait de Sœur Emmanuelle. Alors, un petit mot pour conclure, Olivier ?
Oui, alors, lors d'une intervention, il n'y a pas très longtemps, il y a un élève qui a posé une question. L'écologie, ça coûte cher et ça présente de nombreuses contraintes. Pourquoi ? Alors, je lui ai proposé de remplacer écologie, le mot écologie, par enfant. La question devient alors, les enfants, ça coûte cher et ça présente de nombreuses contraintes. Pourquoi ? J'entendais enfant dans le sens les parents et les enfants. Mais cette question, on ne se la pose pas, parce que nous savons que nos enfants, quand on est parents, ils font partie du sens même de notre vie, ils font partie de ce que nous aimons. Et je pense que nous avons à réapprendre, à nous réapproprier ce lien d'amour avec la création. Et je vous propose de vous laisser avec cette phrase de Laudato Si 11. Si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément.
Olivier, est-ce que je peux vous demander si vous avez des conseils de lecture pour nous permettre d'approfondir ce sujet ?
Alors, des choses très courtes. Donc, un texte de Yves Cochet qui se trouve sur Internet, qui s'appelle « Pourquoi le déni et l'inaction ?» Donc, c'est ça qui a servi d'apport sur les interactions spéculaires. Je le mettrai en lien en podcast de l'émission. Et puis, pourquoi pas le conte d'Andersen, justement, « Les habits neufs de l'empereur » que je vous conseille vraiment de lire. Et puis, dans un domaine autre que la lecture, je pense que dans le lien aux autres, on peut aussi travailler. On peut oser partager notre enthousiasme, nos clés, nos frustrations, nos idées. Vraiment, cette démarche de conversion, elle peut nous habiter chaque jour. Et on peut oser aussi dire, nous déclarer en conversion. Je pense que c'est important.
Merci Olivier pour ce beau partage.